Bonjour et bienvenue, 11h TU, midi ici à Paris, le journal sur RFI.
Gilles Moreau.
Les préparatifs s'accélèrent à Paris. Actuellement, on devrait connaître dans les prochaines heures la composition du gouvernement de François Bayrou, gouvernement qui, d'après un sondage, devrait faire ses premiers pas avec un niveau de popularité historiquement bas. En Allemagne, le gouvernement est sous pression, 2 jours après l'attaque sanglante d'un marché de Noël. Pourquoi l'auteur présumé n'a-t-il pas été stoppé plus rapidement? Et pourquoi n'a-t-il pas été mis hors d'état de nuire alors que depuis longtemps, il multipliait les signaux inquiétant en Allemagne. Dans ce journal aussi, l'eau redevient peu à peu accessible à Mayotte, 8 jours après le passage du cyclone dévastateur. Et aux États-Unis, les élus républicains dénoncent de plus en plus l'influence d'Elon Musk. Mais pour commencer ce journal, les tensions qui montent en Serbie. Le drame avait fait 15 morts dans l'effondrement d'un auvent de la gare de Novi Sad. Plus d'un mois et demi après, la contestation contre la corruption et l'impunité continue à travers le pays. Et même le mouvement parti des étudiants s'étend et fragilise le régime du président Vučić. Un nouveau rassemblement de taille est annoncé cet après-midi à Belgrade, où nous retrouvons Laurent Rouy.
Pour la première fois samedi, les agriculteurs ont rejoint le mouvement étudiant contre la corruption lors de la manifestation de Novi Sad. Et ce d'une façon originale, puisqu'ils ont cuisiné 1200 portions d'un plat typique de haricots pour le distribuer aux étudiants et aux lycéens qui manifestaient dans une ambiance bon enfant. Le rejet de la corruption et de l'impunité, deux des marques du régime populiste du président Aleksandar Vučić en place depuis 2014, mobilisent de plus en plus dans la société serbe. Les syndicats d'enseignants se sont ainsi solidarisés, de même que les travailleurs d'une importante mine de charbon, ainsi que les comédiens du théâtre national. En face, le régime, qui ne parvient pas à désamorcer la crise, a tenté de stopper le mouvement lycéen en avançant la date des vacances scolaires. Il a aussi promis aux étudiants des prêts immobiliers subventionnés, le tout sans résultat. De nombreuses organisations appellent à une forte participation à la manifestation de ce dimanche. Laurent Rouy, Belgrade, RFI.
En Allemagne, les suites de l'attaque d'un marché de Noël vendredi soir, attaque qui a été fatale à 5 personnes. Plus de 200 autres ont été blessés à des degrés de gravité divers. Présenté à un juge hier soir, l'auteur présumé a été placé en détention provisoire. Sous pression, le gouvernement d'Olaf Scholz est sommé de répondre à des questions. Cet homme, un médecin psychiatre d'origine saoudienne, n'aurait-il pas dû être stoppé bien plus tôt? Et pourquoi n'a-t-il pas été mis hors d'état de nuire alors que depuis des années, il multipliait les signaux inquiétants en Allemagne? À Mayotte, dévastée il y a 8 jours par un cyclone, l'aide parvient peu à peu aux habitants, notamment l'eau. L'eau potable est en partie accessible à Mamoudzou, le chef-lieu de l'archipel. Et pour la première fois depuis la catastrophe, de l'eau a été livrée au pied du quartier Kawini, c'est le plus grand bidonville de Mayotte. Reportage de notre envoyé spécial Nicolas Fellman.
Ils sont dans la file des dizaines en quête de quelques bouteilles d'eau, une ressource qui manque cruellement dans le bidonville.
Ils n'ont pas remis de l'eau jusqu'à présent, donc voilà. On récupérait l'eau de la pluie pour faire à manger, tout ça. On essaye de récupérer de l'eau comme on peut. Donc aujourd'hui, on a vu distribuer des packs d'eau, donc c'est mieux que rien, on va dire. Donc voilà.
Une trentaine de gendarmes de la sécurité civile déchargent et distribuent les packs d'eau.
On est venu en véhicule militaire et on a un conteneur rempli d'eau. Le but, c'est de le vider entièrement. On a un deuxième camion qui est là-bas, qui est déjà en cours de dépotement. On repart au port, on revient et on fait la même mission.
Mais la distribution est limitée, un pack par personne. Elio récupère le sien, le premier et le seul livré depuis une semaine.
Les habitants sont déjà en colère, ça fait déjà une semaine qu'on passe dans les moments difficiles et tout. Et là, on ne donne que des paquets d'eau et voilà. Ou même les pompiers n'ont pas passé ici à Kaweni, il n'y a rien qui se passe du tout.
Elio repart ses bouteilles d'eau sur la tête en direction de ses collines, encore défigurées par le passage du cyclone. À Mamoudzou, Nicolas Feldman, Jad El Khoury, RFI.
Et ce dimanche, un gros porte-conteneur doit livrer à Mayotte 1 600 000 litres d'eau. Le bilan provisoire du cyclone à Mayotte s'élève toujours à 35 morts, 2 500 blessés, dont 78 grièvement. Au Mozambique, frappé lui aussi par le cyclone, on a dénombré tout près 200 morts. À moins d'un mois de son entrée en fonction, le président élu des États-Unis continue de former son gouvernement. Donald Trump vient de nommer Mark Burnett au poste d'émissaire au Royaume-Uni. Mark Burnett n'est autre que le créateur et producteur d'une émission présentée durant de longues années par Donald Trump, l'émission The Apprentice. À Washington, la semaine a été très agitée dans les couloirs du Congrès où les élus ont dû trouver une solution in extremis pour éviter le shutdown. Le chaos a été déclenché par l'intervention de Donald Trump. C'est lui qui a ordonné aux républicains de torpiller l'accord jusque-là sur la table. Mais s'il a dû intervenir, c'est parce qu'Elon Musk avait vivement critiqué ce texte bipartisan, cette influence du milliardaire patron de X. De nombreux élus démocrates, mais aussi républicains, ne le voient pas d'un bon œil à l'approche de l'investiture de Donald Trump. Correspondance de Lubna Anaki.
Le président Musk, le second in chief, l'éminence grise de Trump ou encore le double de Trump, c'est ainsi que certains à Washington et sur les plateaux télé surnomment désormais Elon Musk. Le patron de Tesla, on le sait, a été choisi par Donald Trump pour diriger le nouveau département de l'efficacité gouvernementale, mais en réalité, il occupe également une fonction de conseiller auprès du président élu. Elon Musk est quasiment présent à toutes les réunions, tous les dîners, et mercredi, il a suffi que l'homme d'affaires publie une dizaine de tweets critiquant le projet de budget négocié par les républicains et les démocrates pour que Donald Trump ordonne aux élus de son parti de rejeter le texte parlant d'un projet ridicule. Un avant-goût de ce que pourrait être la présidence Trump avec un Elon Musk comme conseiller. Le patron de Tesla est l'homme le plus riche du monde et compte plus de 208 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Une influence vivement critiquée par les élus démocrates cette semaine et même certains républicains qui ont osé défier les directives de Donald Trump ont déclaré, je cite, qu'il travaillait pour le peuple américain et non pour Elon Musk. Lubna Anaki, New York, RFI.
La défense civile de Gaza annonce 28 morts dans plusieurs frappes nocturnes de l'armée israélienne. Parmi les victimes, 4 enfants tués dans une école abritant des déplacés. L'armée israélienne ne dément pas, elle affirme avoir ciblé des terroristes du Hamas. Après la mort de 7 autres enfants palestiniens, le pape François a condamné hier la cruauté de la frappe qui les a tués. 2 semaines après la chute de Bachar al-Assad, les nouvelles autorités syriennes continuent de se mettre en place. On connaît maintenant les ministres des Affaires étrangères et de la Défense. La diplomatie syrienne sera dirigée par Assad al-Shibani. C'est lui qui devra continuer de rétablir les contacts avec les pays occidentaux. Ahmad al-Sharr, le nouvel homme fort de la Syrie, a rencontré avant-hier à Damas une délégation américaine. En France, la formation du nouveau gouvernement dirigé par François Bayrou avance. Une annonce est attendue dans les prochaines heures. Le patron du Modem peaufine son équipe. Une chose est sûre, il entame sa mission avec une cote de popularité très basse. 66% des Français se disent mécontents du chef du gouvernement centriste. Baromètre IFOP JDD. On passe au sport. Boxe, l'invincible Oleksandr Usyk, eh bien le meilleur. 7 mois après leur premier combat, l'Ukrainien a de nouveau battu Tyson Fury hier soir à Riyad. Il l'a emporté au point par décision unanime. Toujours invaincu en 23 combats, Usyk reste le patron incontesté des lourds. Christophe Diremsian.
Arrivé devant les 18 000 spectateurs de la Kingdom Arena en tenue de Père Noël, Tyson Fury avait pourtant promis de ne faire aucun cadeau au grand moustachu de Simferopol, tenu à distance en début de combat. Mais Usyk a fini par accélérer le rythme dans la troisième reprise, se montrer plus agressif et plus précis au fil des minutes. Fury avait beau enchaîner les coups, il ne parvenait pas à faire une différence nette, s'exposant même à un crochet de l'Ukrainien vers la fin du duel. Au final, c'est bien le tenant des titres qui a fait la plus forte impression chez les juges, prolongeant ainsi à 37 ans son invincibilité à 23 combats et sa domination dans une catégorie reine qui n'était pourtant pas la sienne au début de sa carrière professionnelle après son sacre olympique à Londres en 2012. Ancien lourd léger, il a enfilé et toutes les ceintures mondiales des lourds les unes après les autres, devenant, après sa première victoire contre Fury le 18 mai dernier, le premier champion unifié depuis le Britannique Lennox Lewis en 1999. Le redevenir après avoir dû abandonner le titre IBF fin juin, c'est à peu près la seule perspective motivante qui s'offre désormais à lui.
C'était Christophe Diremsian. En football, au programme ce week-end, les 32e de finale de la Coupe de France. Programme dominé par un match phare ce soir, le déplacement à Lens du Paris Saint-Germain, tenant du titre. En championnat, Paris survole la Ligue 1. L'équipe entraînée par Luis Enrique compte avant la trêve de Noël 10 points d'avance sur Marseille et Monaco, ses deux poursuivants. Voilà ce journal terminé. Prochain rendez-vous avec l'information, le journal de 13h présenté par Charlotte Derouin. Tout de suite, le retour des programmes sur RFI, le retour des magazines avec l'atelier des médias. Il est pratiquement 11h10 en temps universel.